Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Et ensuite, on pourra faire la conclusion de l'émission. Je te laisse la parole, Marc-Antoine. Merci.
Merci, Enzo. Donc, il y a quelques semaines, j'avais parlé des manifestations pour la démocratie au Mexique, déclenchées par des réformes menées par M. López Obrador, l'actuel président du pays, soit la réforme de l'INE, l'Institut national des élections et l'élection au suffrage populaire des membres du pouvoir judiciaire, tout en présentant de manière brève les principaux candidats à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, je vais me concentrer surtout sur la campagne à venir et les enjeux. Tout d'abord, pourquoi c'est intéressant de parler de ces élections? Les élections qui auront lieu le 2 juin mènera à l'élection d'une femme comme présidente, qui est d'ailleurs une première dans l'histoire du pays. D'ailleurs, les deux femmes candidates, ont mis de l'avant beaucoup d'engagements pour les femmes dans leurs campagnes respectives. Par exemple, des services de garderie, un système de rente pour les femmes au foyer de plus de 60 ans qui s'occupent des enfants. Pour ce qui est des principaux enjeux de la campagne, il y a l'insécurité et la violence. Selon une ONG, ACLED, c'est le pays le plus dangereux pour les civils. Il y a beaucoup d'affrontements entre les gangs, entre eux et les gangs et l'armée. À titre indicatif, il y a eu 30 000 morts à cause de ces affrontements en 2023. Les crimes, homicides et disparitions demeurent largement impunis. C'est des chiffres très inquiétants. On parle de respectivement 93 % pour ce qui est des homicides et 99 % pour ce qui est des disparitions qui demeurent impunies. Ce qui explique ça, c'est que selon Tony Payan, il n'y a pas de stratégie de sortie du président face aux crimes organisés. Il y a aussi, au niveau plus politique, il y a une hausse de la violence politique qui va probablement augmenter dans le cadre des élections. Dada Civica évoquait 2023 a été l'année la plus violente de notre base de données et tout porte à croire que 2024 sera pire. Il y a aussi une militarisation accrue de l'État, mais surtout au niveau civil. Donc, l'armée va administrer des douanes, va entretenir des routes, va construire des aéroports. Il y a va assurer la gestion des trains, entre autres. Il y a aussi la corruption qui est très fréquente dans le pays. Monsieur Obrador, le président actuel, et ses fils ont été visés par certaines enquêtes, bien que ça avait été un enjeu dans la campagne qui a mené à l'élection de Monsieur Obrador. Il s'était montré très critique de cette dernière avant d'entrer en poste. Monsieur Obrador est lui-même concerné par des allégations qui remontent à 2006, qui le nie. Il y a la situation économique aussi qui joue pour beaucoup. C'est beaucoup de programmes. Il y a beaucoup de programmes sociaux, mais seulement pour certains groupes. Puis la situation économique, il n'y a pas vraiment de progrès à partir de certains indicateurs économiques, que ce soit l'emploi, l'activité économique. Il y a aussi la pauvreté qui est au même niveau qu'avant l'élection de M. Obrador. Pour ce qui est des principaux candidates, il y a Claudia Sheinbaum, qui est une scientifique de formation, récipiendaire du prix Nobel de la paix avec le GIEC, qu'on a parlé dans l'entrevue tantôt avec M. Florent, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat en 2007. C'est la dauphine de M. López Obrador. Elle représente la coalition gouvernementale, le mouvement de régénération internationale, qui est connu sous le nom de Morena. Il y a le Parti du Travail, le Parti Vert. Elle était la mairesse de Mexico jusqu'en juin dernier, 2023. Elle bénéficie de la légitimité populaire du président, qui est d'ailleurs très présent dans ces événements. Elle promet de poursuivre les engagements de M. Obrador, tant au niveau économique que sécuritaire. Au niveau sécuritaire, il y a l'approche de M. Obrador qu'on pourrait traduire par des câlins plutôt que des balles. Le but de l'approche est d'empêcher des jeunes de rejoindre les organisations criminalisées en proposant d'autres alternatives tout en s'attaquant aux origines de la violence. Elle aurait entre 50 à 60 des intentions de vote. Il y a Mme Iochil Gavès, qui représente une coalition de trois partis, soit le Parti de l'Action nationale, le Parti de la Révolution démocratique et le Parti de la Révolution institutionnelle. C'est une ingénieure de formation, une femme d'affaires également. Elle avait une entreprise dans le secteur de la technologie. Elle a été en charge de plusieurs dossiers liés au peuple des Premières Nations dans plusieurs organismes gouvernementaux durant la présidence de Vincente Fox au début des années 2000. Et des critiques envers M. Obrador, notamment pour sa tolérance des groupes criminels dans le pays et les contre la corruption. Elle propose de construire trois prisons à sécurité maximale inspirées de Bukele au Salvador, que j'ai parlé dans une précédente chronique. Elle souhaite une meilleure coopération avec les États-Unis dans la gestion du trafic d'armes, tout en retirant la gestion des activités civiles aux militaires. Comme autre candidat, il y a M. Ménès, qui est du Parti Mouvement citoyen. C'est un député à l'Assemblée nationale au Mexique. Il est à l'origine en charge de la campagne du candidat de son parti. Il y aurait à peu près 5 % des intentions de vote. Pour lui, les enjeux de campagne, c'est surtout au niveau de la défense des droits des travailleurs et des minorités.
Fait qu'on va aller en petite pause, puis on va pouvoir en discuter là, un peu plus après, puis conclure l'épisode.